La Java des bombes atomiques. Mon oncle, l'infâme bricoleur.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. Voilà, par un beau soleil, on laissait la musique, c'était bien. aujourd'hui, nous recevons de nouveau la CRIRAD, mais alors sur un tout autre dossier qui est l'alimentation en cas d'accident nucléaire. Mais avant, et c'est Roland Desbordes qui va être avec nous, mais on aura l'occasion de lui redire un petit bonjour tout à l'heure. Bien, d'abord, la parole à notre billettiste Georges qui nous fait toujours son petit point sur Fukushima.
Oui, bonjour chères auditrices et auditeurs. Tout d'abord, entre janvier et mars 2015, 16 nouveaux cas de cancer de la thyroïde ont été diagnostiqués chez des jeunes qui avaient moins de 18 ans lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. Parmi ces 16 derniers cas confirmés, 12 étaient déjà suspects pendant l'étude précédente et 4 ont été dépistés en 2015. Selon la préfecture, la première étude a permis de diagnostiquer 112 jeunes atteints de cancer de la thyroïde. La préfecture mène actuellement une seconde campagne, qui se terminera en mars 2016, qui vise 380 000 jeunes. Fin mars 2015, 120 000 examens avaient déjà été réalisés. Avec ces nouveaux cas, la préfecture annonce que le total de jeunes atteints de cancer de la thyroïde est de 127.
127 cas, oui. Excuse-moi je t'interromps, mais 127 cas sur 385 000, c'est très nettement supérieur au taux qu'on calcule aujourd'hui de 1 sur 1 million en principe chez les enfants de cet âge.
Tout à fait, mais bien évidemment c'est pas l'avis de la préfecture qui dit qu'il est peu vraisemblable que ces cancers soient en relation avec la catastrophe nucléaire. Et même que cette proportion de nouveaux cas est identique à celle des autres provinces japonaises.
Eh bien, c'est une affaire à suivre ça.
Tout le monde est content.
Alors, il y a des risques d'explosion dans des conteneurs stockant des boues radioactives.
Tout à fait. Les 1300 citernes en polyéthylène de 1,80 m de haut sur 1,50 m de diamètre, où sont stockées les boues contaminées résiduelles après filtrage de l'eau par le système ALPS, posent un risque d'explosion d'hydrogène. En effet, des gaz dont de l'hydrogène se forment au fond de ces citernes sous l'action des radionucléides. Le volume augmente et des fuites se produisent au niveau des couvercles ou par des fissures. Les couvercles devaient être prévus pour laisser échapper les gaz, mais TEPCO vient de se rendre compte que ça n'était pas le cas pour toutes les citernes. TEPCO a initialement trouvé des fuites sur 25 citernes, puis sur 278, enfin sur 333, soit environ un quart ou un peu plus de l'ensemble des conteneurs. L'électricité statique pourrait suffire à provoquer une explosion. Ces boues résiduelles sont extrêmement radioactives. Ensuite, quelques mots sur Yaoumen Sato et ses centrales solaires. Donc à Kitakata, préfecture de Fukushima, Yaoumen Sato, dirigeant à la 9e génération d'une brasserie de saké exploitée dans la ville depuis 1790, a fondé en 2013 la compagnie d'énergie Eizu Denryoku. Il dirige aujourd'hui plus de 20 centrales solaires. Sato entend également parier sur de micro-centrales hydroélectriques et sur la biomasse issue du bois, pour permettre à son affaire d'exploiter les abondantes ressources en eau et celles des forêts de la région de Eizu, dans l'ouest de la préfecture de Fukushima, où est située la ville de Kitakata. Note du traducteur, notez que la ville de Eizu est la capitale historique du département de Fukushima. Quelques mots pour dire que c'est un investisseur privé et qui essaie de promouvoir une sortie, mais pas dans le sens des citoyens.
En tout cas, la catastrophe, le Japon est de nouveau à la pointe sur les recherches alternatives. C'est ça qui est une bonne chose. Voilà. Tu voulais nous faire un tout petit point, justement, en parlant des thyroïdes, sur l'initiative que pourrait prendre sortir du nucléaire à partir d'un film.
Oui, c'est donc le film documentaire A2BC de Yann Thoman H. sur les enfants de Fukushima, qui nous a été proposé par la CRIRAD ce samedi soir, un film remarquable, qui nous a été proposé au cinéma Le Navire de Valence. Donc SDN fait l'impossible pour vous le présenter à la rentrée à Saint-Paul-Trois-Châteaux face à la centrale du Tricastin.
Voilà, merci Georges. Jeanne, Vanessa étant un petit peu en retard, ouais. C'est toi qui nous fais ton intox-désintox en avance.
Voilà, alors en ce mois de juin, je vous propose une révision de quelques mensonges du nucléaire sous forme d'un jeu. Examinons en premier les accidents. L'échelle internationale de classement des événements nucléaires sert à mesurer la gravité d'un incident ou d'un accident. Un incident nucléaire est classé de 1 à 3, un accident de 4 à 7. Cette échelle a été élaborée en 1990 à la suite de Tchernobyl. L'ASN a classé des événements antérieurs en reprenant cette échelle. Combien y a-t-il eu d'accidents nucléaires en France ? 0, 1, 2 ? Eh bien, la réponse est 2, contrairement à ce que claironnent les politiques et les ingénieurs du nucléaire. 1 en 69, classé au niveau 4, sur le réacteur numéro 1 de Saint-Laurent-des-Eaux. Il y a eu fusion partielle du cœur à la suite d'une erreur humaine. Les travailleurs ont réparé en grattant l'uranium fondu. Aucun bruit dans les médias, les riverains non informés. Un autre en 80, classé également au niveau 4, toujours à Saint-Laurent-des-Eaux, mais sur le réacteur numéro 2. Une tôle s'était détachée du toit et avait bloqué le refroidissement des barres, ce qui a entraîné la fusion partielle du cœur. Des particules de plutonium ont été libérées par cette fusion, et pour remettre en fonction, EDF a, pendant 5 ans, jeté dans la Loire du plutonium dilué, alors que c'est interdit par la loi. La communication d'EDF aux élus, il y aura des rejets à travers des filtres dans le respect des limites autorisées. Après les accidents, les déchets. Autre talon d'Achille du nucléaire. Le recyclage des déchets nucléaires issus des centrales concerne 96% des déchets, 50%, 1%. La réponse, c'est 1% seulement, alors qu'Areva parle de 96%. Comment on passe de 1 à 96? En comptant comme matière première du futur 95% d'uranium de retraitement. Cet uranium de retraitement pourrait servir d'ici 100 ans, quand les réacteurs nucléaires sauront produire de l'énergie en incinérant leurs propres déchets. Et voilà, le tour est joué. En attendant, il faut les stocker, ces déchets. Mais quelle quantité représentent-ils? Une piscine olympique? 40? 150? Réponse, 150. En octobre 2008, Anne Lauvergeon reprend le mensonge d'une piscine olympique. Récapitulons. Alors accrochez-vous un petit peu parce qu'il y a des divisions. Au centre de stockage des déchets de la Hague, nous avons 550 000 m3 de déchets enfouis sous plusieurs couches de terre. Si on divise ces 550 000 m3 par une piscine olympique de 3750 m3, nous obtenons 147 piscines. Pour obtenir un culot d'uranium enrichi dont ont besoin nos centrales, il faut appauvrir 7 kg d'uranium. Cet uranium appauvri est stocké sous forme de poudre dans des hangars de type agricole dans le Limousin. Pour Areva, ce n'est pas un stockage, mais un entreposage temporaire, toujours pour le nucléaire du futur. Il y en a actuellement 160 000 tonnes auxquelles il faut rajouter 40 000 tonnes à venir, soit 200 000 tonnes. L'uranium enrichi, transformé en barre qui sert de combustible aux centrales, est remplacé tous les 18 mois. On le transporte à la Hague où il est refroidi avant d'être séparé. Une fois séparé, retour à Tricastin où il est stocké dans 10 hangars représentant 27 000 tonnes. 200 000 tonnes plus 27 000 tonnes, ça fait 227 000 tonnes. Qu'il faut diviser par 19 tonnes au mètre carré, ça pèse très lourd l'uranium. Soit 11 947 m3 divisé par une piscine de 3750, et voilà, 3 piscines. 147 plus 3, 150. Et le compte n'est pas fini, il faut ajouter la prévision de 15 km² de galerie à Bure pour les déchets de haute et moyenne activité à vie longue. Et voilà.
Merci Jeanne, je connais un nombre d'élèves de primaire qui vont te détester. Eh bien, une petite chanson, Pierre Perret, bah justement, mon petit loup, tiens.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant ce ganarelle. t'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock, et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé, ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au Lamparo, et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler, et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver? On en a des choses à voir, jusqu'à la Louisiane en fait, où y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous recevons de nouveau, parce qu'on a reçu déjà le mois dernier la CRIRAD, mais là, c'est sur un dossier un petit peu particulier. Alors, Roland Desbordes, bonjour déjà.
Bonjour.
Parce que, avec Corinne Castagnier, vous êtes les deux qui présentaient un petit peu ce dossier. C'est Corinne Castagnier de la CRIRAD, hein, ayant beaucoup travaillé dessus.
Qui l'a élaboré complètement.
Hein. Même complètement. Et on essayait de la voir, Corinne, mais bon, mais Roland est là et on est
ravis. Elle y travaille parce qu'il y a une actualité qui est là aujourd'hui. Donc, c'est elle qui est aux manœuvres.
Eh bien, écoute, c'est très bien comme ça. Voilà, on était intéressé par faire venir la CRIRAD sur ce fameux dossier de l'alimentation en cas d'accident nucléaire. Alors, comment se fait-il que la CRIRAD s'intéresse en 2015 à ce dossier qui fait suite à Tchernobyl, si on a bien compris? Pourquoi en 2015? Alors, et quels sont les enjeux?
Et depuis avant Tchernobyl, il n'y avait pas de normes sur les aliments en situation accidentelle, puisque l'accident était impossible. Donc on n'avait pas à fixer des normes sur les aliments. À partir de Tchernobyl, on a fixé des normes provisoires, très provisoires. Au début, c'était même 3 mois. On pensait que 3 mois après, tout était fini. Et depuis Tchernobyl, donc, c'est-à-dire depuis plus de 25 ans maintenant, ces normes provisoires, toujours par rapport à Tchernobyl, ont été reprorogés, légèrement bougés, mais on était toujours sur du provisoire. Donc, après Fukushima, donc 2011, nos experts européens se disent, mais l'accident, il est peut-être là demain, donc il vaut mieux, au lieu d'être pris de court en cas de nouvel accident, et là, on est obligé de l'imaginer au cœur même de l'Europe, eh bien, il faut anticiper, c'est-à-dire adopter un règlement et pas qui fixera des normes définitives en cas d'accident nucléaire en Europe. Et ce projet, donc, qui au départ devait être simplement une petite codification, comme on dit, ou une mise à niveau, je dirais, des textes antérieurs, s'est transformé petit à petit en nouvelle réglementation, et qui a été présentée sur Internet, donc consultable, en août de l'année dernière, c'est-à-dire il y a bientôt un an. Nous avons évidemment regardé tout de suite ce document, ça fait partie du travail de la CRIRAD, de faire ce qu'on appelle une veille juridique, réglementaire. Qu'est-ce qu'on nous prépare dans ces instances nationales ou internationales? Parce que il est parfois important d'agir, non pas seulement après, mais parfois préventivement. Et nous avons déjà pu, par notre expérience du passé, éviter, je dirais, certains règlements ou certaines législations très mal protectrices de la santé publique. Donc, Nous regardons ce règlement et là on s'en tombe du plafond, vraiment carrément, parce que ce qui est prévu là comme chiffre pour la contamination qui serait considérée comme acceptable par nos experts est très très au-delà de ce qui était déjà, je dirais, dans les tuyaux depuis 86, et si on appliquait ces normes-là, il est clair qu'on ne protégerait absolument pas la population. On mangerait des becquerels, comme on dit, du matin au soir, et des quantités telles qu'il y aura un impact sanitaire dans les années qui viendront après, qui sera colossal. Ce sera une vraie hécatombe qu'on aura. Donc pour nous, c'est clair que ces chiffres-là qui sont proposés par l'Europe sont totalement inacceptables.
Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, pour l'instant, donc, comme tu le disais, il y a une réglementation. La réglementation actuelle, est-ce qu'elle est, elle a évolué depuis Tchernobyl? Est-ce qu'elle est protectrice déjà pour l'instant?
Non. Quand on a adopté des normes en 86, on a adopté des normes dans l'urgence et en fonction des connaissances de 86. Depuis 86, nos connaissances scientifiques ont beaucoup évolué et toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a sous-évalué les risques en 86, comme dans les années 80. À partir des années 80, on était persuadé, mais ça n'a pas été intégré tout de suite dans les réglementations, que ce qu'on pensait le détriment, c'est-à-dire les dégâts sanitaires causés par 1, 2 becquerels, 10 becquerels par l'irradiation des aliments, la radioactivité des aliments, eh bien, ça provoquait pas trop de dégâts. On s'est aperçu que la réalité était tout à fait autre, c'est-à-dire qu'on a sous-estimé les conséquences sanitaires de l'ingestion de radioactivité. Donc, on a navigué depuis 86 pour arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a interrogé l'Europe, alors on dit, bon, aujourd'hui, le nouveau règlement, il n'est pas appliqué, il n'est pas adopté. Donc, où est-ce qu'on en est, au fait, aujourd'hui? Alors, personne n'est capable de vous répondre au niveau de l'Europe, de dire, mais quel serait, si je produis demain l'accident, aujourd'hui, quelles seraient les normes appliquées? Parce que avec Fukushima, tout est reparti en vrille, je dirais, puisqu'on était à un accident qui était à 15 000 km de chez nous, ça on l'avait pas prévu, mais qu'on importe beaucoup de produits du Japon, que le Japon n'adopte pas les mêmes limites que nous, enfin, ça a été un imbroglio le plus total, et aujourd'hui, personne n'est capable de dire au niveau de l'Europe quelles seraient les normes à appliquer aux produits d'importation, par exemple, du
voilà,
Japon.
Parce que si on comprend bien, en fait, ces normes-là servent à la fois à nos paysans, notre propre industrie, à vendre des choses qui en principe ne devraient pas être dangereuses, mais c'est aussi pour bloquer ou en tout cas contrôler des produits qui pourraient venir de pays où il y a eu des accidents nucléaires, où il y a eu des problèmes nucléaires.
Absolument. Alors l'idée de départ de 86 de ces normes, c'était de dire l'Europe de l'Ouest va se protéger contre l'importation des produits de l'Est, puisque Tchernobyl c'était dans l'ex-URSS. Il y avait encore le rideau de fer. Donc l'Europe a adopté des limites en disant il faut se protéger de l'importation des pays, on va fixer des normes en fonction de ces importations. Sauf que personne, dès le départ, n'a imaginé que la contamination pouvait être très importante, pas seulement proche du réacteur, mais chez nous, en France, dans la Drôme.
On l'a bien vu.
Et on l'a bien vu. Et donc, les autres pays d'Europe, sauf la France, le seul pays, a dit, ben, si c'est des normes d'importation, elles sont aussi valables pour les produits consommés localement. Donc nous allons appliquer ces normes, qui sont censées être des normes d'importation, à des consommations locales françaises, enfin européennes. C'était, dans cet esprit-là, c'était dire, on applique des normes, mais de toute façon, nous, on a dit, en France, on était le seul pays, j'ai des biens à dire, non, strictement, le règlement européen, et c'est pas faux, disait, ça s'applique à l'importation. Et avec le Japon, ben, c'est exactement le même raisonnement qui a été tenu. Sauf que là, aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte du tout, c'est qu'on imagine un accident nucléaire, non pas à 2000, à 15 000 km de chez nous, mais chez nous.
Dans la vallée du Rhône, par exemple.
Dans la vallée du Rhône. Et là, on nous ressort des chiffres qui ont été élaborés, qui ne sont pas protecteurs de la santé publique, ça on l'a bien vu bien démontré la CRIRAD, mais qui étaient pour un accident à 2000 ou 10 000 km de chez nous, avec simplement donc peut-être quelques aliments contaminés, et pas la totalité de nos aliments contaminés, et qui fait que on va appliquer ces limites. Mais plus que ça, on va augmenter les limites, c'est-à-dire on va rediscuter peut-être des chiffres après,
on va.
Pour voir que ce qu'on avait à 600 becquerels, par kilo pour les césium 137, 134, etc., adoptés en 86 pour l'alimentation adulte, pour donner un chiffre, hein, je ne vais pas l'envoyer, je ne vais pas faire comme ta collègue tout à l'heure qui nous a balancé beaucoup. C'était très intéressant.
C'était très drôle.
Il faut savoir faire des divisions et des multiplications, c'est voilà. Intéressant. C'est un excellent exercice. Donc là, au lieu de radopter même la limite, qui n'était pas bonne à l'époque, mais non, on va plus que la doubler. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien compris, ou alors on a fait exprès de ne pas vouloir tenir compte justement de l'évolution des connaissances.
Eh bien, après Claude Nougaro, là, on va réattaquer justement un petit peu donc, sur ce nouveau projet et ce qu'il fait évoluer.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri, et je me souviens que je la suivais. Je la suivais, sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit. Je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, 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 réveillez-moi.
Atomic Mac sur Radio Méga et plein d'autres radios qui nous prennent en relais maintenant, Adi, à Tournon, etc. Nous sommes avec Roland Desbordes, nous parlons de l'alimentation en cas d'accident nucléaire. On a vu quelle était la réglementation depuis Tchernobyl, comment elle a évolué, etc. 2015, ça doit changer. Qu'est-ce qui se passe exactement donc dans les textes que vous avez pu consulter et qui vous inquiètent?
Alors, on a pu constater que un projet de règlement a été élaboré dans le cadre d'une commission qui s'appelle Euratom. Euratom, les gens connaissent peut-être Euratom, mais ils ne savent pas forcément qu'est-ce que ça cache Euratom. Euratom, c'est une institution européenne, une des premières d'ailleurs de l'Europe, et dont la vocation principale est de promouvoir l'énergie nucléaire en Europe, c'est-à-dire de la développer. Au moindre coût, c'est précisé. Et cette commission, en même temps, on lui a chargé d'élaborer des règles sur la radioprotection, donc la protection contre les conséquences néfastes des radiations. Autrement dit, on a tout faux dès le départ.
Bon. Oui, c'est le pollueur qui établit les règles pour...
Exactement. Voilà, exactement. On a vu ça avec le lobby de l'amiante, du tabac, mais quelque part, les choses étaient plus claires. Il y avait un lobby avec ses experts, et puis il y avait les autres.
Hein. Voilà, là, ce qu'on connaît
dans la même structure, exemple, les mêmes. Bon. Donc, Euratom propose et est censé tenir compte des avancées scientifiques qu'on a depuis les années 80, on est en 2015, et donc fixer des limites qui seraient d'après leur dire, protectrice de la population. Et quand nous, on a regardé, évidemment, ils ont vendu leur truc aux parlementaires européens en disant on a bien travaillé, on a fait beaucoup d'améliorations par rapport à l'ancien règlement. Avant, il n'y avait que deux sortes de radionucléides, les radionucléides à vie courte et les radionucléides à vie longue. Maintenant, on va faire quatre catégories, vous voyez, il y a un progrès. Oui, avant, il y avait les aliments pour enfants et les aliments pour adultes. Donc c'était simple, mais c'était grossier. Maintenant, on va faire cinq catégories d'aliments. Donc on a travaillé et on a fignolé, on a affiné, etc. Donc ça, c'est la côté promotion de leur projet. Sauf que quand on fait les... Je ne vais pas vous assommer des chiffres, mais quand on fait les calculs avec leurs chiffres de normes, si on appliquait ça pour des gens qui vivent en France en cas d'accident nucléaire, et qui serait appliqué sur des années, parce que la contamination de l'environnement, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain, ce n'est pas la phase d'urgence, on est dans des années, on est aujourd'hui 30 ans après Tchernobyl, et il y a encore des problèmes de radioactivité à cause de Tchernobyl. Donc ce n'est pas pour quelques jours qu'on va fixer ces limites, c'est pour des durées très longues. Eh bien, si on fait des calculs en disant, bah tiens, on va manger un petit peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, une alimentation normale, je dis, on n'est pas des fous, on n'est pas... Hein, eh bien, on dépasse très très largement les limites sanitaires, c'est-à-dire les dégâts qui sont censés être contre lesquels on est censé nous protéger.
C'est l'accumulation en fait de l'ensemble de ces aliments qui peut être dangereux.
Par exemple, un truc tout simple. Ils ont fait donc quatre catégories de radioéléments, mais ils considèrent qu'il n'y a toujours qu'une seule catégorie qui sera dans l'environnement, ce qui est totalement faux.
Oui.
Il y aura forcément le cocktail. Au contraire, dans un accident nucléaire, vous avez tous les radioéléments sont là. Eh bien là, eux, ils disent, eh ben non, on suppose qu'il n'y a que du strontium, ou que du césium, ou que de l'iode, ce qui est totalement faux. C'est complètement non scientifique. Mais c'est vrai que si vous vous grattez pas, ça saute pas aux yeux, ça. Après, il part du principe que les limites qui seraient appliquées là ne seraient valables si 1% de notre alimentation était contaminée. Mais ça, c'est pas écrit dans les textes. Parce que nous, on faisait nos calculs, on disait, mais si on mange 100% de notre alimentation contaminée, parce qu'on habite à Chabeuil et qu'on est agriculteur, qu'on a des enfants, on a des bêtes, on a un jardin, etc., eh bien évidemment, si l'environnement est contaminé à Chabeuil, tout ce qu'on va manger de notre environnement sera contaminé. Donc ce sera peut-être pas 100%, mais ce sera un pourcentage important. Et donc, évidemment, nous, on fait ces calculs avec 30%, 50%, 80%, on n'imagine pas forcément 100%, mais on s'aperçoit que ça ne tient pas la route. Les résultats des débits, des conséquences sanitaires ne collent pas du tout avec ce qui est annoncé par les experts. Donc, ça ne colle pas. Et là, la seule référence scientifique, c'est de dire, ben, il faut aller chercher dans les annexes d'un document qui date de 86. Tiens, c'est bizarre. On est en 2015 et ça renvoie à un document qui date de 86 et qui part du principe qu'on est dans un accident qui s'est passé à 2000 km de chez nous, Tchernobyl. Et que chez nous, dans la Drôme, les conséquences de désimportation de ces aliments venant de Tchernobyl, ça peut être 1%, 2%. C'est pas faux. Sauf que si c'est chez nous que ça se passe l'accident, ça ne tient absolument pas la route. Voilà tout un tas d'arnaques, d'erreurs qui sont énormes et qui sont dans le règlement.
Bon, là on comprend bien effectivement les limites donc de l'exercice qu'ils sont en train de faire, puis d'une certaine façon c'est un peu, on est en train de nous préparer à des accidents et on cherche à limiter, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce qu'il faut quand même, on peut pas laisser se balader ou commercialiser des aliments contaminés. Quelle serait une bonne réglementation d'après la CRIRAD?
Une bonne réglementation, ce serait une réglementation qui protège. Bon, alors évidemment, les experts, ils ne vont pas vous dire que ça ne protège pas. Eux, ils disent, nous, ça protège. Neuf, sauf qu'on peut prouver exactement le contraire. Donc, une réglementation qui protège, ben, ça veut dire évacuer les gens. Il ne faut pas les laisser dans un environnement contaminé, mais évacuer largement. D'emblée, dès qu'on a un accident, on n'attend pas que la contamination soit prouvée dans l'environnement. Il faut qu'on évacue à 100, 200, 500 km, c'est ça la réalité. Oui, sinon, voilà. On ne protège rien. Alors après, dire « Ah mais c'est pas possible !» Ah ben d'accord, mais là, il fallait y penser avant. Hein.
Tout à
avant
fait.
D'installer Bugey à côté de Lyon, il fallait peut-être y penser avant.
Alors on voit maintenant, on perçoit effectivement pourquoi vous avez réagi très vite. La campagne, là, vous allez la mener comment? Bon, j'ai vu qu'il y avait une pétition qui était partie, mais on imagine qu'il n'y a pas que la France. On est sur la réglementation européenne.
On est en train de traduire tout ça dans les différentes langues d'Europe pour pouvoir mobiliser, parce que curieusement, on est les seuls à se mobiliser en Europe là-dessus. la crainte.
Il n'y a pas beaucoup de laboratoires indépendants en Europe.
Malheureusement, du coup, on a par contre des partenaires, des associations comme vous, comme etc., des citoyens qui, eux, ont envie de se mobiliser sur ce sujet. C'est pour ça qu'on a lancé une pétition. Parce que ce qu'on a réussi déjà, je dirais, c'est à bloquer le dossier. Pour l'instant, il aurait dû passer comme une lettre à la poste fin 2014. Donc on est en 2015, mi-2015, et pour l'instant le dossier est bloqué. Et il va passer normalement au Parlement dans l'été, mais on est en train de faire repousser les séances, pour arriver à ce que ce règlement ne soit pas adopté, en tout cas pas tel qu'il est aujourd'hui, parce que là, ce serait pour moi scandaleux. En tout cas, nous, on aurait honte si on ne s'était pas mobilisé. Donc on traduit les trucs en différentes langues, on se mobilise à partir du site internet, tous les citoyens peuvent imprimer la pétition, la diffuser autour d'eux, la faire signer. Malheureusement, on n'a que ça aujourd'hui. Nos parlementaires européens n'auront qu'un avis pour la forme, je dirais, et sauf si on retire, et ça fait partie du courage qu'auraient peut-être nos parlementaires européens, mais évidemment, ils ne sont pas mûrs pour ça, c'est-à-dire si on retire la prérogative à Euratom de fixer ce genre de règlement. Parce que là, si ce sont des vrais experts indépendants qui travaillent sur la situation post-accident, qui précisent des règles, des normes, etc., les résultats seraient totalement différents. Là, on est devant un règlement qui protège le lobby nucléaire en cas d'accident nucléaire, en ne l'obligeant pas à protéger les populations, c'était à retirer des produits parce que ça coûterait trop cher, tout simplement. Alors,
on sait que l'Europe fonctionne beaucoup, enfin au niveau du Parlement en tout cas, avec les lobbies. On imagine que le lobby nucléaire est considérable.
Énorme.
C'est un petit peu là David contre Goliath, mais bon, David des fois.
Alors, c'est vrai qu'il y a des États européens qui peuvent eux mettre le doigt dans l'engrenage. Et on a eu récemment, la semaine dernière, un contact avec un parlementaire européen autrichien qui dit, moi, au nom de l'Autriche, je vais mettre le doigt dans l'engrenage pour essayer de le bloquer. Parce que du côté français, on a essayé, pas question. Même nos autorités françaises ne veulent pas faire entrave, je dirais, à ce règlement. Donc en tant qu'association, pour nous, intervenir là-dedans, c'est très compliqué. Donc on en est à la pression, l'interpellation, c'est pour ça qu'on fait ça, qu'on vient à la radio, vous en parlez. Et puis, on va essayer de faire jouer les politiques. Et il y a quelques États en Europe qui, sur ce sujet du nucléaire, en ont marre. Hein, c'est le cas de l'Autriche, c'est le cas du Danemark, c'est le cas de l'Irlande, de subir, je dirais, une Europe nucléaire, alors qu'eux ont fait ce choix.
On fait le choix de ne pas en avoir.
L'Allemagne, c'est un peu plus compliqué. Hein, mais l'Autriche est porteur, je dirais, a très bien compris en quoi eux, ils seraient victimes, et seulement victimes, ils ne bénéficiaient de rien du tout dans cette histoire.
Alors pour conclure, Roland, on peut trouver cette pétition où?
Alors sur le site de la CRIRAD, vous pouvez l'imprimer, la signer, sortir du nucléaire. Il y a plein d'autres associations maintenant qui le relayent. Nous avons eu beaucoup de mal à lancer cette communication parce que il faut savoir, c'est que depuis qu'on en parle, nous, ça fait 6 mois qu'on en parle, la CRIRAD, depuis qu'on a découvert, c'est-à-dire plus de 6 mois, même 8 mois, à Bruxelles, ils commencent à être très embêté qu'on en parle, justement. Il pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste dans la discrétion.
Tous les autres projets.
Et là, du coup, ça les oblige, et encore la semaine dernière, ils ont refait des courriers à la CRIRAD en disant, mais non, mais vous avez mal compris, c'est pas tout à fait comme ci, c'est pas tout à fait comme ça. Nous, on est pour une protection de la population, etc. Voilà, donc ils essayent de jouer. Alors, c'est pour ça que ce dossier, on a du mal à le boucler, en gros. Mais quelque part, on a déjà gagné, c'est le bloquer.
Oui, c'est ça, voilà.
Et puis, temporairement,
mais il faut mobiliser.
Évidemment. Bon,
on appelle tous les autres médias beaucoup plus importants que le nôtre à s'engager là-dessus. Et merci beaucoup
merci à vous
d'être venu nous présenter ce dossier qu'on va suivre. Et je pense qu'on aura l'occasion de refaire le point avec vous au fur et à mesure. Quoi.
Merci à vous.
Roland. Eh bien, maintenant, c'est Vanessa qui était en retard parce qu'elle a plein de problèmes au travail, mais qui nous vient avec son billet sur, justement, sur le travail dans les centrales, si j'ai bien compris.
Bonjour à tous. Oui, je vais vous parler de... Je ne vais pas vous parler de mes soucis de travail, mais ça ressemble un peu, enfin presque. Non, c'est loin, c'est très très loin quand même. Alors, en avril, l'EPR de Flamanville dans la Manche devenait, avec la découverte d'une anomalie très sérieuse dans la composition de l'acier de la cuve du réacteur, l'exemple à ne pas suivre et le symbole d'une industrie française en grande difficulté. Ce chantier, ayant déjà coûté 9 milliards d'euros à Areva, dont je le rappelle, le capital est détenu par l'État français à hauteur de 86,5%, ne cesse de plomber l'image de la France en matière nucléaire. Ce énième problème, causant un énième retard à ce chantier qui devait représenter le fleuron de l'industrie de l'atome en France, pourrait causer le naufrage d'Areva si EDF ne proposait pas de venir à son secours. Il faut dire que les conséquences d'une mise à l'arrêt définitive du chantier de l'EPR de Flamanville seraient désastreuses. Outre 9 milliards d'euros, qui est le coût actuel de l'EPR, sans compter un éventuel démantèlement, donc ces 9 milliards partiraient en fumée et c'est la filière nucléaire tout entière qui serait impactée. C'est pourquoi, selon les informations révélées par les Échos il y a quelques jours, EDF propose de racheter l'ensemble de l'activité réacteur d'Areva pour 2 milliards d'euros. Pour ne pas être affecté par les risques liés au passé, le contrat sur l'EPR finlandais, qui fait l'objet de lourdes pertes, est exclu de l'offre d'EDF. Elle ne suffira donc pas à couvrir les besoins d'Areva, estimés à 7 milliards d'euros. C'est pourquoi la pression monte, concernant un plan de suppression de 3 000 à 4 000 postes pour parvenir à une réduction des coûts sur les frais de personnel à 1 milliard d'euros.
Là, alors, vous allez me dire, oui. Il y a des réactions du personnel quand même. On semble voir le personnel d'Areva, on les a vus à l'usine de Malvézy, les délégués syndicaux sont même venus voir les militants antinucléaires, j'imagine que ça réagit un peu.
Alors effectivement, 3 à 4 000 postes, c'est considérable et ça impacterait notamment la vallée du Rhône de manière très importante au niveau économique. Alors évidemment, les syndicats montent au créneau. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs une journée de mobilisation autour des personnels du Tricastin. Et puis, 3 à 4 000 postes supprimés pour 1 milliard d'euros d'économie, ça veut dire qu'il reste encore un trou de 6 milliards. Donc le problème est 6 milliards, moins 2 milliards l'offre d'EDF. Enfin, en tout cas, il reste encore des milliards.
C'est extrêmement arithmétique.
Donc aujourd'hui, pour le grand public, c'est-à-dire ceux qui écoutent la radio, hein, qui ne sont pas forcément hyper informés, quand on parle du nucléaire, on parle de licenciement, on parle d'économie, on parle de pertes considérables, de retard. Voilà, donc les syndicats ont du travail, et puis les contre-pouvoirs, c'est-à-dire nous au sens large, on a du travail, et surtout que ne perdons pas de vue que outre ces 3-4 000 postes, et c'est, voilà, tout ce déficit qui est dramatique, les tarifs fixés par le gouvernement devraient sans nul doute augmenter aussi cette année. Donc ça veut dire augmentation de nos factures. La précarité énergétique a de l'avenir.
Merci Vanessa. Et puis je pense qu'on peut peut-être ici même dire que nous soutenons les salariés d'Areva, même si nous ne partageons pas toujours leur choix et nous avons des fois des débats un peu houleux avec eux. Il est évident que ce ne sont pas les salariés dans aucune entreprise qui doivent pâtir des bêtises et des choix politiques qui ont été faits par d'autres. Voilà, donc soutien total aux salariés d'Areva. On passe, Céline, à notre agenda.
Voilà, l'agenda du mois de juin. Bonjour à tous. Pour commencer, dimanche 7 juin, donc c'est le week-end prochain, aura lieu une action qui n'est pas dans la région, mais si vous avez l'occasion d'aller dans la Meuse, donc il y a l'action 100 000 pas à Bure qui est organisée. Donc ça consiste en l'organisation de randonnées actives et une chaîne humaine pour s'opposer au projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse. Donc il y aura tout un tas d'animations en plus des randonnées devant le laboratoire, entre guillemets, de Bure. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site 100000pasabure.over-blog.com.
Et voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés par y aller, il y a quelques voitures là sur Valence qui veulent partir, donc il y a quelques places, vous pouvez nous téléphoner.
Voilà.
Je rappellerai le numéro tout à l'heure.
Voilà. sinon, pour continuer, le week-end suivant, donc le 13 juin aura lieu à Chambéry, l'Assemblée Générale d'Enercop Rhône-Alpes. Donc voilà, ça concerne principalement les sociétaires de la coopérative. Mais toutefois, si vous voulez vous intéresser à ce qui s'y passe, vous pouvez toujours vous y rendre. En tout cas, vous pouvez toujours trouver les informations sur Enercop, le seul fournisseur d'électricité 100% renouvelable, sur le site d'Enercop Rhône-Alpes. Voilà. Ensuite, le 27 juin, Sortir du nucléaire en Dromardèche participera à une action 0 watt. Donc voilà, on fera un petit tour dans la ville de Valence, comme ça a déjà été fait par le passé, pour faire un petit peu le point sur les éclairages nocturnes et l'application de la réglementation en la matière. Donc le rendez-vous est donné à 1h au kiosque Perret à Valence. Et voilà,
pour 1h du matin.
1h du matin. Oui,
précisons bien,
sûr. C'est plus intéressant pour vérifier l'éclairage nocturne. 1h du matin. Donc voilà. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur l'organisation, il y aura un petit mot sur le blog de SDN 2607. Je continue. Le 30 juin, le tour des alternatives, Alternatiba, s'arrêtera à Valence. Donc qu'est-ce que c'est que ce tour ? C'est un tour de France qui propose à chacune des étapes des animations pour appeler la population à mettre en route la transition sociale, énergétique et écologique. Donc voilà, ce tour Alternatiba s'arrête à Valence le 30 juin. Donc là encore, alors le programme n'est pas encore clairement établi, mais ça le sera d'ici peu. Et donc là encore, je vous invite à vous reporter au site internet.
On peut dire que Sortir du nucléaire aura un stand.
Voilà.
Sortir du nucléaire Dromardèche aura un stand.
Voilà, exactement. Et donc le programme sera sur le site Alternatiba.
Et peut-être la CRIRAD. On la CRIRAD aussi.
Voilà. Ensuite, j'attaque sur le mois de juillet, puisque l'émission aura lieu que le 6. Donc, il y aura une action le 4 juillet, une action nationale rond-point. Voilà, donc on manifestera notre opposition au nucléaire sur l'un des ronds-points de Valence. Donc, on n'a pas encore clairement.
Et ça, ce sera dans toute la France aussi. Hein,
ça sera dans toute la France, voilà. C'est une initiative des gens du budget.
Nos voisins.
Nos voisins, voilà. Et donc, ce sera une initiative nationale et nous y participerons. Alors, on n'a pas encore clairement défini comment et où, mais là encore, vous aurez toutes les informations sur le site de sdn26-07.org. Donc, ça aura lieu le 4 juillet. Voilà, alors je finis avec les événements classiques. Tous les samedis matin, rendez-vous Place Porte-Neuve à Valence avec les obstinés de la Place Porte-Neuve qui vous montreront les toutes nouvelles cartes établies qui montrent les éventuelles conséquences d'accidents sur les centrales de Tricastin, Cruas ou Saint-Alban dans la vallée du Rhône, avec vent du nord ou vent du sud. C'est très intéressant, vous pourrez discuter avec nos collègues. Donc ça, c'est tous les samedis matin de 11h à 12h30, Place Porte-Neuve. Et enfin, je termine. Notre réunion mensuelle, voilà, si vous voulez venir nous aider dans nos combats, le 22 juin, lundi 22 juin à 18h30, au local de la Frapna, avenue de Verdun à Valence. Voilà.
Merci Céline. Eh bien écoute, je rappelle à tout le monde que notre répondeur est au 08 05 69 67 58. C'est un appel gratuit et vous pourrez retrouver ce numéro de téléphone sur le site de Sortir du nucléaire Dromardèche, site internet. Outre Roland de la CRIRAD qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, il était présent à la technique Jean-Pierre, qui maintenant devient un spécialiste de la radio, Georges qui nous a fait son billet, Vanessa, Jeanne et Dominique, moi-même. Voilà. Eh bien, on vous souhaite une bonne fin de journée. Prochaine émission, ce sera le 6 juillet 2015. Une émission spéciale été avec lecture par des artistes de passages, de romans et de nouvelles sur le nucléaire, parlant du nucléaire. Beaucoup de romans japonais, mais on imagine pourquoi. Et maintenant, musique.